Alors,
France Culture.
Trop chouette de vous recevoir, on est ravis.
Bah ouais,
ça
moi
fait
aussi.
Longtemps, vous savez.
C'est vrai, ah ouais, oui, moi ça me touche longtemps. Trop.
Oui.
Le Book Club.
Je suis trop contente. Bon, par contre, j'ai un peu bronchite, angine et je suis hypochondriaque, donc je vais des fois
psiter.
Peut-être je tousse.
Dans la bibliothèque de Mela Bedia.
En fait, toussez autant que vous voulez, nous on montrera. Hein.
C'est vrai.
Ouais.
Je peux faire. Est-ce que je peux faire 10 minutes de toux active?
Ouais, tout ce que vous voulez.
Non, ça va, ça. C'est juste ça. Ça me fait du bien. Propolis, c'est un truc de bobo, vous aimez bien normalement chez France Culture.
Ah d'accord, tout de suite.
Les clichés.
Ah bravo, super.
Je rigole.
Marie Richeux.
Avoir le sens de l'humour, avoir de l'esprit, cette élégance-là, y compris dans la satire, est-ce que ça n'a pas toujours à voir avec le rapport qu'on entretient au langage ? Le rythme dans une phrase, un mot à côté d'un autre, un mot à la place d'un autre, quelque chose entre le langage et le corps, une façon d'écrire ou de lire la vie qui révélerait une petite distance ou une grande distance. En tout cas, c'est quelque chose qu'on sent chez vous, Mela Bedia, depuis qu'on vous écoute sur scène, qu'on vous voit au cinéma et plus encore devant la série que vous coécrivez et réalisez, où il est question de langage dès le titre, puisque arabe et français se côtoient en très gros à l'écran dès le début, Miskina, la pauvre. On a eu envie de vous entendre sur votre rapport aux mots et aux livres, mais pas qu'aux livres, à tous les endroits où se logent des enjeux de parole. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation du Book Club.
Rigolez, merci à vous de m'inviter au Book Club, c'est la classe.
Soyez la bienvenue au Book Club de France Culture. Ici, tout commence toujours par un questionnaire de lecture.
Okay.
On se demande, voilà, peut-être que c'est une façon de faire le portrait de nos invités. D'abord, en tant que ce sont des lecteurs et des lectrices, est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel paysage, et peut-être à côté de qui, vous avez appris à lire, Mela Bedia ?
Moi, je crois que j'ai appris à lire à côté de Ramzi, mon grand frère, parce que c'est un amoureux de la lecture, vraiment, et c'est un insomniaque. Donc moi, en tant que petite meuf de 6 ans qui veut pas dormir quand on me dit d'aller dormir, j'allais me glisser dans son lit et dans sa chambre, et lui, insomniaque qu'il était, il dévorait des livres toute la nuit. Donc je crois que les premiers livres qu'il m'a filés, c'est des bandes dessinées, je crois que c'était... C'est pas Tintin, parce que Tintin, c'était pas bien, on a compris aujourd'hui, mais on savait pas quand on était jeunes. Non, je crois que c'était les Bidochons. Exactement, c'est les Bidochons et c'est grâce et à cause de Ramzi que j'ai commencé à lire.
Mais ça veut dire qu'il vous a vraiment appris à lire au sens déchiffré ?
Ça, je déchiffrais déjà un petit peu avant la CP et après, comme tout le monde, Ratus et ses amis, quoi.
Ah bien sûr, Ratus, ça fait plaisir. Et c'est trop rare qu'on parle de Ratus
Personne
et Belot.
Personne ne se souvient, il y avait Mina.
Il y avait Mina et Belot, ouais, si. Oui. Et Marou, en effet.
Et Marou. Et
plusieurs personnes l'ont évoqué, mais pas assez à notre goût.
D'accord.
Est-ce que c'était une joie pour vous d'apprendre à lire ?
Ah bah oui, c'est comme si d'un coup on avait une nouvelle liberté enfant de pouvoir ouvrir un livre et découvrir une histoire, des personnages, un autre environnement et puis de s'évader. C'est les premiers moments d'évasion, c'est là quoi.
Et vous l'avez fait beaucoup ?
Ah ouais, en fait pour être très honnête avec vous, j'ai beaucoup lu jusqu'à mes 15 ans. Puis après j'ai eu des portables et des consoles et je suis devenue une abrutie devant l'écran. Mais j'avais une vraie passion pour la lecture à l'époque.
Et qu'est-ce que vous avez lu jusqu'à vos 15 ans ?
J'étais très fan des Tom Tom et Nana. Beaucoup de BD. Et après, beaucoup de chair de poule, tout ça, tous ces trucs d'enfants qu'on adore et qu'on lisait sous la couette avec la petite lampe torche, quoi.
Est-ce qu'il y avait des livres chez vous ?
Il y avait des livres, mais beaucoup la bibliothèque de Ramzi, moins la bibliothèque parentale. Puis il y avait des grands livres, vous savez, les grands beaux livres qu'on pose sur les belles tables pour faire genre devant les invités. Il y avait que ça.
Et est-ce qu'on parlait de lecture ? Est-ce que c'était valorisé ? Est-ce que vous avez vu vos parents lire, par exemple ?
Pour être très honnête, non. Ma mère, elle lisait toujours les livres qu'elle achetait à Carrefour, ou, vous savez, les livres en tête de gondole, alors soit la biographie de Véronique Genest, ou Comment maigrir en 10 jours. Ma mère, c'était vraiment l'adepte de ça.
Mais elle lisait avec
plaisir. Mais c'était pas des grands classiques, quoi.
Et quand vous parlez de ces conversations avec Ramzi autour de la lecture... Ou des insomnies nourries par la lecture, c'est-à-dire il vous conseillait des livres, vous discutiez de livres.
Non, Ramzi, il a vu que j'étais un peu douée à l'école et que j'aimais ça. Du coup, il s'est mis en tête de me faire lire des livres et des grands classiques et je devais faire des fiches de lecture le dimanche.
Et vous vous souvenez de quoi, par exemple ?
Un des livres que j'ai choisi, c'est Maus, et ça, c'est vraiment lui qui me l'avait. Mais il y en avait beaucoup. Ça a commencé avec Primo Levi, Voyage au bout de la nuit de Céline, mais celui-là était un peu dur pour moi, jeune. C'est après que je l'ai découvert. Ramzi, franchement, c'est Bukowski. Mais bon, j'étais jeune pour tout ça, mais il m'a quand même mise dedans, quoi.
Tout à l'heure, je commençais l'émission en disant que une sorte de sens de l'humour ou d'esprit, ça révèle souvent un rapport au langage. Si vous deviez dire ce que vous avez comme rapport aux mots, comme rapport à la langue, au fait de parler.
J'adore. Je sais pas comment. Ce serait bizarre. J'essaie d'être humble dans la vie de tous les jours, mais Je sais que j'ai un amour pour l'écriture, que ce soit par SMS ou sur Word, où j'adorerais, des fois, je me fais des petits délires, j'aime bien avoir des relations épistolaires avec des potes, genre on s'écrit des cartes postales ou des lettres. Donc ça, c'est quand je tombe amoureuse d'un cum, et qui veut bien jouer le jeu. Il y en a un dernièrement qui a joué le jeu, mais je crois qu'il est un peu avare sur les timbres, du coup j'ai reçu qu'une lettre. Mais sinon, j'adore écrire, j'adore lire et j'adore écrire et j'adore m'amuser avec les mots.
Mais ça a toujours été le cas ?
Depuis jeune, ouais, j'aimais bien aller au théâtre, donc j'ai commencé à apprécier le théâtre et à apprécier les pièces de théâtre aussi, parce qu'on avait une super prof à Asnières qui s'appelait Madame Boncourt, et elle nous emmenait voir du kabuki à Chaillot, quoi. Sauf qu'on était juste des petits gars de la fin de la ligne 13, nous. Donc je la remercierai jamais assez, cette Madame Boncourt, et elle nous a fait découvrir plein de pièces de théâtre qui étaient géniales, parce que j'ai découvert l'humour, moi, mais dans des pièces classiques. Je pense pas que c'était, dans ma tête, c'était un peu... c'est antinomique, quoi. On pouvait pas et lire un livre classique et rire. Par exemple, genre Molière, c'est un génie. Faut le dire, quoi. Aujourd'hui, je pense, il remplirait des stades.
Mais il remplit pas mal de salles, par ailleurs.
Oui, mais continue. Là, il serait à la mode, genre, il serait sur Prime Video, quoi.
Vous avez une pratique d'écriture qui s'exprime comment aujourd'hui ?
Ça dépend de ce que j'écris, mais le spectacle, j'aime bien l'écrire à la main. J'aime bien être avec. Une belle feuille et un beau quatre couleurs. Et quand c'est des séries ou quand c'est des films, on n'est plus sur l'ordi. Mais c'est vrai que j'ai un rapport à l'écriture avec le stylo, quoi. J'aime bien écrire vraiment ce que j'ai envie de dire. Et après, on repasse tout à l'ordi. Mais bon, c'est plus classe, je trouve. Le geste d'écrire, il se perd. Et c'est dommage.
Dès le début, dans cette série, il y a deux mots en énorme sur l'écran, quelques minutes après une sorte de pré-générique de Miskina la pauvre. Un mot en arabe, un mot en français. Est-ce que ça joue dans votre rapport au langage ? Qu'est-ce que vous avez comme rapport avec la langue que parlent certains des personnages dans Miskina la pauvre ?
En fait, moi, j'ai grandi dans une famille franco-algérienne. Du coup, mes grands-parents m'ont élevée avec ma maman. Et mes grands-parents me parlaient en arabe, je leur répondais en français, ma mère me faisait un mix des deux. Du coup, quand on était jeune, j'avais un peu honte, je me disais « Ah non, faut pas venir me chercher devant l'école, tu vas parler en arabe ». J'avais un peu honte, bizarrement, et j'aurais pas dû. Et en grandissant, je me suis rendu compte que c'était une vraie richesse. C'est-à-dire que je connaissais une autre langue. C'est-à-dire que j'étais bilingue. Mais au début, quand on était jeune, on avait un peu honte. Parce qu'on se disait « Non, faut bien s'intégrer, faut pas faire de vagues, faut bien parler français, faut pas faire de fautes, parce que nous, on est des rebeux. Alors nous, les rebeux en banlieue, si on fait des fautes et qu'on parle en plus avec un accent carré, enfin, du coup, c'était compliqué, quoi. » Donc pendant très longtemps, je me suis dit « Non, l'arabe, ça va pas me servir. » Et en fait, en grandissant, je me suis dit « Mais c'est génial. Je parle anglais et je parle l'arabe. Bon, » alors, c'est le dialectal, mais je parle quand même l'arabe. Et c'est cool.
Et français ?
Français, ça, je crois que oui. Je crois.
À partir de quand vous vous êtes dit que c'était valable, que c'était bien, que c'était légitime, que c'était beau de connaître cette langue-là ?
En grandissant, on se rend compte que déjà, on a un héritage qui est celui de mes grands-parents, moi, pour ma part. Quand ils partent et qu'ils font plus partie de ce monde, qu'ils sont plus de ce monde, mais paix à leurs âmes, il y a vraiment un truc de... t'as envie de leur rendre hommage quelque part. Donc t'as envie d'aller fouiller dans les souvenirs, dans la langue... dans plein de choses, dans les principes et les valeurs qui nous ont inculqués, tout ça. Donc, c'est vraiment quand tu perds les gens que tu te dis « Ah, mais merde, j'aurais dû plus parler avec eux en arabe ou en français, mais j'aurais plus dû échanger, quoi. » Et c'est à la perte de mes grands-parents que je me suis dit « Mais attends, c'est génial, c'est une force de ouf. » Alors, c'est compliqué en France parce qu'il y a plein de dos à régler. Mais purée, on n'aurait pas dû mettre ça sous le tapis. On aurait justement dû le sortir très tôt.
Il y a des questions que vous auriez aimé leur poser, des questions importantes ?
Ah ouais, franchement, là, en grandissant... J'aurais adoré leur poser des questions sur ne serait-ce que, je sais pas, la guerre d'Algérie, leur gestion de la fuite de l'Algérie.
Vous n'avez eu aucun récit de ça ?
On a eu des petits récits, mais comme on est une famille de rigolos, les Bédias, c'est toujours entre un tagine, une vanne et les courses à Carrefour. Donc rien n'a été un peu gravé dans le marbre et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses qui nous manquent aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez que, par exemple, ces récits-là, c'est des choses qui auraient bougé votre façon d'être qui vous êtes, Mella Bédia ?
Peut-être. Après, là, je suis en psychanalyse chez Melchior dans le 15e, c'est pas très loin. Donc, on est en train d'avancer.
Melchior, c'est son nom ? Mais non.
C'est pas un roi, mais c'est vraiment un psychologue. Mais il est génial. Mais du coup, ouais. Je pense qu'il y a plein de choses qui nous manquent. On a même n'importe quelle famille, d'ailleurs. Des fois, tu te dis « Ah merde, j'aurais dû demander ça, j'aurais dû savoir ça. » Et après, les gens partent ou les gens ne sont plus là et tu te dis « Ah merde, là, j'ai merdé. » Parce que je sais plus, donc faut que j'aille creuser, quoi.
D'ailleurs, il y a une partie de cette série, de la saison 2 de Mesquine et la Pauvre, qui raconte ça, qui raconte une sorte de voyage vers les souvenirs, de voyage avec les meubles, dans des endroits laissés par une grand-mère qui est décédée. C'est vraiment l'idée de réunir une famille autour de choses qui n'ont pas été dites, de secrets, de choses tues. Ça n'est que ça, Mesquine et la Pauvre.
C'est que ça, et au vu du succès de la Une, visiblement, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui m'ont dit « mais en fait, c'est même pas une famille de rebeux. C'est une famille tout court. » Et c'est en ça où je me suis dit, purée, je suis trop contente parce qu'on a la même grand-mère, qu'elle soit... on a tous une grand-mère ronchon le dimanche qui t'engueule. On a tous des tabous à table, c'est-à-dire que personne parle ouvertement de ses conquêtes avec les grands-parents ou la maman et tout. Enfin, il y a des secrets dans toutes les familles, que tu sois auvergnat ou algérien. Donc, il y a vraiment un truc autour de la famille dans Mesquina qui m'a touchée et qui, visiblement, a touché aussi les autres gens. Et c'est trop cool. Et il y a un truc avec les meubles, il y a un truc... On a tous un truc de Madeleine de Proust, que ce soit l'odeur du dimanche, l'eau de Javel du matin quand il nettoie, Jacques Martin en fond sonore.
La télé.
La télé tout le temps.
Vous convoquez énormément de souvenirs télévisuels, de grandes figures de la télévision française qui sont des manières d'explorer le passé, l'enfance, l'adolescence du personnage de Farah. Elle fait apparaître dans son salon des présentateurs télévisés qui les ramènent directement en enfance et en adolescence. C'est comme un pilier presque.
Complètement. Mais parce qu'on a grandi avec la télé. On a grandi avec les gens dans ce petit cadran-là. Vraiment, moi j'ai grandi avec un Jacques Martin, j'ai grandi avec Jean-Pierre Foucault. Il y a un moment donné, tu te dis, c'est mon oncle, mais je le vois trop. Tu le voyais plus souvent que des gens de ta famille. Donc, et il y a un côté très rassurant aussi. Tous ces programmes télévisuels qu'on avait enfants, c'est des trucs, quand je les remate aujourd'hui, je sais pas, il y a un truc réconfortant. C'est un peu comme la blanquette de veau du dimanche.
On a reçu il n'y a pas très longtemps Faïs Aghen, dont vous avez choisi un titre qu'on lira tout à l'heure, un extrait de son dernier roman, mais qui disait qu'elle avait véritablement appris à lire à la télévision avec la famille en or, puisque les lettres se retournaient sur le tableau et composaient petit à petit des mots, et que ça lui avait permis vraiment d'entrer dans la possibilité de déchiffrer les mots. La télévision était pour elle quelque chose de très fondamental dans le rapport aux mots et au langage. Je voudrais qu'on l'écoute. Elle parle aussi du rapport à la lecture. On écoute une archive.
D'une certaine façon, je me mets à une place en devenant auteur qui ne m'était pas destinée quelque part. Moi, je suis la première de ma lignée à avoir fait ce geste. Je le fais de gauche à droite. C'est pas ma langue. Je le fais tout court. Je m'exprime. Avant moi, les choses ont été tues. Dans mon histoire et dans la tradition, ce qu'on m'a donné, ce dont j'ai hérité, c'est des histoires orales qui ne se sont jamais écrites. Et donc là, il y a déjà le geste, pour moi, c'est déjà subversif et c'est déjà être à un endroit. Et tout d'un coup, il y a une sorte de responsabilité sur vous et c'est déjà quelque chose qui interroge. Mais après, la question de la lecture, ça soulève la question de qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de valable et qu'est-ce qui fait de votre culture une culture valable? Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas écrite, qu'elle n'est pas valable? Est-ce que c'est parce qu'elle doit être reconnue? Est-ce qu'on doit la reconnaître? Et pour moi, il y a la question du geste civilisateur qui est très problématique. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on n'a pas existé jusqu'au moment où on a lu Molière. On dirait qu'on n'est rien du tout, que notre culture, c'est rien du tout jusqu'au moment où on a dit, vous savez, avant j'étais rien du tout et puis un jour j'ai découvert Balzac. Hey, what? سامي قال لي عدل
France Culture Le Book Club Dans la bibliothèque de Mélabédia Marie Richeux.
C'est la romancière Faïs Aghen en septembre 2024 dans le Book Club de France Culture, Mélabédia.
Moi je l'adore, montre qu'on se connaît bien. Et je l'adore. J'aime beaucoup cette écrivaine, vraiment. Elle a beaucoup de talent. Si j'étais écrivaine, je serais elle, je pense. Vraiment.
Pourquoi?
Parce que la manière dont elle écrit, c'est la manière dont je parle et dont j'aurais pu écrire si j'avais le talent. Et je vais pas rentrer dans ce truc de... Elle rend la lecture accessible à tous, mais je crois que oui. En fait, j'ai pas envie de le dire, mais je le pense.
Bon, en tout cas, elle fait de la question de la littérature populaire une question importante pour elle et une question politique.
Oui, ouais. Puis c'est marrant surtout. Il y a beaucoup de romans, chacun aime les styles qu'il aime, mais elle, c'est drôle. Et ça me parle, on dirait un stand-up, mais sur 200 pages, j'adore ça.
Il y a deux choses importantes dans ce que vous dites là, c'est la manière dont elle écrit, c'est la manière dont je parle. Et il me semble que, en effet, dans ce que vous faites, il y a quelque chose de très fort dans le rapport à la parole. Et aussi ce que disait Feizagen, c'est l'idée que le livre, c'est une manière de légitimer des gens, de légitimer une culture. Mais certaines personnes et certaines cultures, et elle parle de tout le patrimoine oral, le matrimoine oral qu'elle a reçu et qui a été tout aussi important pour elle et pour son
écriture. Oui, mais qui est moins classe aujourd'hui.
Mais qui est moins valorisée.
Légitime, ouais. Ouais, qui est moins valorisée, c'est ça.
Est-ce que ça a eu un rôle important, des histoires qu'on vous aurait racontées? Ou peut-être juste des conversations?
Mais moi, c'est plus les conversations. Moi, j'adorais écouter les conversations, déjà parce que j'étais curieuse. Et surtout parce que je le vois aujourd'hui quand j'écris, que ce soit des dialogues ou une scène, j'ai une oreille de dialogue. Plus que de scène, d'ailleurs. Et j'écoutais beaucoup les parce que mon père avait un café et qui s'appelait l'Escargot, Porte de Clichy. Et c'était vraiment le café où il y avait tous les mondes qui se mélangeaient. C'est ça que j'aime bien. T'as l'éboueur qui vient prendre son café et sa noisette bien blanche. T'as le mec qui sort du palais de justice à côté. Et ça, j'adorais écouter. T'as le mec qui vient et qui fait un flipper. Enfin, j'avais tous ces mondes-là un peu mélangés. Et j'aimais être attentive à la manière dont tout le monde parlait différemment, mais tout le monde se parlait quand même entre eux. Il n'y avait pas un truc de lui est au-dessus de moi, l'autre est en dessous. Tout le monde se comprenait et ils avaient chacun leur manière à proprement parler, de parler pour le coup. Et je sais pas, j'ai un truc avec l'oreille, avec le langage, avec l'oral que je respecte aussi beaucoup plus que les mots, quoi, en vrai.
Que les mots écrits, vous voulez
dire? Ouais, que les mots écrits, c'est ça. Je me suis mal exprimée, mais vous avez compris.
C'est-à-dire que pour vous, finalement, il y a autant de valeur à être capable de rendre grâce à la manière dont quelqu'un s'exprime, à la spécificité dont il s'exprime.
En fait, les mots, c'est beau à lire, mais les mots à écouter, je les trouve bouleversants.
Pourquoi ?
Bah parce qu'on a, la voix, on sent l'émotion. Alors que quand tu lis, c'est toi qui mets l'émotion que t'as envie de mettre. Mais quand t'écoutes quelque chose, ou une voix, juste ne serait-ce qu'une voix, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose, tu vois, dans le timbre de la voix, tu peux sentir le mal-être, la douleur ou le bonheur. Enfin, il y a des choses que tu ressens et tout de suite, ça te touche, quoi.
D'ailleurs, c'est quelque chose qui est important chez vous, la voix. Vous avez une voix qui est extraordinairement reconnaissable, c'est comme une sorte de signature. Vous grimacez?
Non, mais parce que je crois que c'est à cause de la clope, juste.
Non,
je rigole. Non, même pas. Non, on me l'a beaucoup dit, mais après, je suis aux grosses têtes. Vous savez, je suis sociétaire aux grosses têtes.
C'est vrai?
Ouais.
Il faut vous féliciter ou pas?
Bah, faut dire comme Laurent Lafitte de la Comédie Française. Sociétaire des grosses têtes, Valhamedia.
Et donc?
Bah, je sais pas, je suis fière, je voulais le placer quelque part.
Bah, oui, bah, ça y est, c'est placé.
C'est bon, c'est fait.
Mais non, du coup, je voulais quand même revenir sur la spécificité de votre voix.
Oui,
il y a que la
cigarette
ou il y a quand même l'idée qu'il y a quelque chose de vous qui s'exprime?
Bah, visiblement, on me le dit pas mal, mais franchement, je voulais faire du téléphone rose, mais j'ai pas pris le bon.
Ça a pas marché?
Non, mais j'aimerais bien qu'on retente. C'est un petit rêve de gosse, le téléphone rose. Y a pas, vous avez pas un numéro, on peut pas tester ou piéger quelqu'un. Non.
Après, vous faites de la radio là actuellement, si quelqu'un vous entend.
Si quelqu'un est sensible à cette voix, envoie-moi un DM sur Insta, frère.
Il est question de souvenirs, de nostalgie, d'adolescence et pourquoi pas des années 2000. On écoute ça. Toutes ces années. Mélabédia dans le book club pour déballer votre bibliothèque. Et une fois n'est pas coutume, on va pas commencer par un livre.
Ouais.
On va commencer par une boîte de médicaments. Ouais. Quand on vous a demandé quels étaient les endroits que vous aimiez lire, les endroits importants pour vous avec des mots, Vous avez dit une boîte de Gaviscon.
Ouais, parce qu'il faut comprendre que je suis très très hypochondriaque et que limite je suis médecin dans ma tête, donc je peux, par exemple, si demain tu viens me voir, tu me donnes tes symptômes, je te dis ce qu'il faut prendre.
Voilà,
je suis PhD, quoi.
D'accord.
Et du coup, le Gaviscon, c'est comme mon meilleur ami. Vraiment. Je crois que je préfère le Gaviscon à mes amis, genre. Et ma mère. Et du coup, je l'ai beaucoup lu.
C'est
parce
enregistré,
que...
hein. C'est pour toujours. Ouais, ce sera à Lina.
Merde. Merde, Lina. Non, je rigole. Enfin, je t'aime, maman, mais j'adore le Gaviscon, tu sais.
Et donc, alors, pourquoi est-ce que vous parlez du Gaviscon quand nous, on vous demande de déballer votre bibliothèque?
Parce que vous m'avez demandé ce que je lisais énormément. Et je crois que ce que je lis le plus.
C'est les notices de
médoc. C'est les notices de médoc. Voilà.
Vous y cherchez quoi?
À être rassurée.
Parce ça que, marche ou pas?
Bah, oui et non.
Ça marche 5 minutes.
Bah là, je vous parle, j'ai une bronchite, une pharyngite, j'ai fait 4 scanners, j'ai rien. Enfin, mais je vais m'en sortir. Chez Melchior, 15e.
Alors, on la lit cette notice?
Bon, tout ce qui est composition en principe actif, on s'en fout un peu.
Vous ne les lisez pas?
Non, parce que je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Vous savez, j'ai fait des longues études. Non, par contre, ce que j'adore lire, c'est la posologie et surtout l'indication.
Je comprends, il y a un côté un peu sexy en même temps.
Ouais, j'essaye de la faire sexy.
Allez, téléphone rose.
Jamais il y a un interne qui veut me pécho.
Beaucoup de petites annonces dans cette bibliothèque.
Ouais, purée. Quand même. Ce médicament est indiqué dans les brûlures d'estomac, les remontées ou renvoie acide, pyrosis et les aigreurs d'estomac. Posologie.
Dites-vous avec un petit sourire.
Ouais, je sais pas, j'aime bien, je crois. Adultes, y compris personnes âgées et enfants de plus de 12 ans, un sachet 3 fois par jour après les principaux repas et éventuellement le soir au coucher. Voix orale, bien malaxer le sachet avant ouverture, lire attentivement la notice avant l'utilisation, tenir hors de la vue et la portée des enfants. Voilà.
France Culture, le Book Club. Dans la bibliothèque de Mélabédia. Marie Richeux.
Alors, je réalise en vous écoutant que j'aime bien lire les posologies.
Ah voilà, on est d'accord.
Après, est-ce que je l'aurais mis dans ma bibliothèque pour le book club de culture? Je ne sais pas, mais en même temps... Non, ce que ça raconte aussi, c'est que les enfants, souvent, avant de lire des livres, ils lisent ça. Combien de fois on a les paquets de cornflakes,
oui.
Les règles du jeu du Uno, les panneaux
même les publicités,
publicitaires... C'est ça aussi, c'est qu'il y a des mots partout, c'est qu'il y a de la lecture partout.
Et c'est pas très glorieux ce que je vais dire, mais aux toilettes, j'ai adoré lire tous les aérosols, moi. Et parfois, vous savez ce que je me fais? Je lis en français, et genre il y a écrit sulfate, et je me dis, tiens, comment on dit sulfate en néerlandais? Et j'ai l'impression que j'ai appris un nouveau mot en néerlandais. Voilà ce que je fais aux toilettes.
La lecture partout. Votre deuxième choix, c'est porter sur un livre de développement personnel, Mélabédia.
Oui.
Qui s'appelle « Vaincre la codépendance ».
Ouais.
Comment vous êtes arrivée à ce livre?
Melchior, 15e, psychologue, et surtout j'ai compris que j'étais codépendante parce que j'ai besoin d'être rassurée tout le temps, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse, mais qui est adorable, qui fait bien à manger, mais qui est angoissé.
Ne vous servez pas trop de notre antenne pour passer des annonces.
Ça, j'ai l'impression que il y a une acoustique qui fait que je vais pouvoir pécho des mecs intello. Est-ce que c'est possible? Il y a déjà eu des gens intello qui se sont mis en couple grâce à vous, grâce au bouclier.
Grâce à cette émission? Ah, j'aimerais bien savoir, mais je crois pas. Enfin, pas à ma
vous
connaissance.
Vous savez pas.
Je peux pas savoir.
Ouais.
On est écouté par quelques personnes.
Ouais, je pense qu'il y a quand même des intellos qui sont 2-3 myopes à la BNF, tu vois. Ou à Beaubourg.
Qui seraient tombés amoureux grâce à nous.
Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas?
Bon, voilà, je lance un petit.
On verra.
Petit appel. Mais en tout cas, pour vaincre la codépendance, c'est. On m'a dit que je faisais de la codépendance. Alors on m'a dit, il faut que tu lises des choses sur la codépendance. J'ai beaucoup d'humour quant au livre de développement personnel. C'est toujours des trucs qui me font mourir de rire. Parce que je pense que c'est bien, mais ça, c'est pas de la littérature, les gars. Enfin, tranquille. Et c'est pas des médecins non plus, donc re-tranquille.
Contrairement à vous.
Moi qui suis en médecine. En tout cas, je suis en 8e année. Mais du coup, ouais, j'ai voulu m'intéresser parce qu'on entendait vachement ça sur les réseaux ou de temps en temps dans des articles, dans psychologie, dans magazine. Mais jamais un livre dédié à ça, donc je l'ai lu.
Et vous, quand on vous dit de lire un livre, vous le faites?
Ouais.
Toujours?
Pas toujours, mais j'essaie. Enfin, quand quelqu'un me l'a survendu, je le lis pas tout de suite. Mais quand on me l'a bien vendu, je le lis.
On lit alors?
Oui.
C'est à vous. Est-ce qu'on a vraiment donné son titre? Vaincre la codépendance de Mélodie Beattie, qui est traduit de l'américain par Hélène Collomb.
Voilà.
Ça date, hein, c'est sorti en 1991.
Ah bon? Putain.
Aux éditions Lattès.
Ah, mais je suis deg, je pensais qu'il était récent. C'est pour ça que ça marche pas et je fais de la codépendance encore. Non, j'ai... C'est la codépendance des années 90, n'est peut-être pas la codépendance des années 2000.
C'est possible.
Ou 2024.
C'est possible. Chapitre 11, tomber amoureux de soi-même, Mélabédia.
Aime ton prochain comme toi-même. Le problème des codépendants, c'est qu'ils ne respectent que trop ce commandement. Pire encore, jamais il ne leur viendrait à l'idée de traiter les autres comme ils se traitent eux-mêmes. Là, ils n'oseraient pas et, de toute façon, les gens ne les laissent pas faire. Pour la plupart, ils souffrent de cette calamité diffuse mais profondément enracinée qu'on appelle autodépréciation. Ils sont mal dans leur peau, ils ne s'aiment pas et surtout pas d'amour. Pour certains, le terme « autodépréciation » est encore en décalage de la vérité. Non seulement ils ont une piètre opinion d'eux-mêmes, mais en plus, ils se vouent une véritable haine.
C'est pas gay.
Putain, c'est pas gay, je pensais que j'avais choisi mieux.
Bon, on peut lire un autre passage de « Vaincre la codépendance ».
Non, mais je l'aime si bien parce qu'en vrai, c'est ça le fond du problème de la codépendance. Et de tous ces livres de développement personnel où ils te disent « Tu t'aimes pas, aime-toi ». Et en fait, j'ai trouvé ça marrant et assez ironique parce que frérot, on a tous un miroir et on a compris qu'il fallait s'aimer pour avancer. Et j'ai trouvé ça fou de le vendre, 19,90, donc je suis là pour le critiquer en vrai, ça y est.
Parce que, en fait, lire un texte qui te dit tombe amoureux toi-même, c'est. Bon, c'est.
Bah, on le sait, quoi. Mais c'est cool de le lire. Mais je pensais qu'en le lisant, ça allait marcher.
Et non. Ça n'a pas fonctionné.
Non, mais on sait, enfin. Tout le monde a ses trucs à régler, quoi. Et donc, moi, forcément, j'ai aussi des trucs où je trouve que je suis nulle et pas marrante et pas belle et grosse. Enfin, on a tous ces trucs-là. Et surtout, quand on est une meuf, c'est compliqué encore plus. Mais tout ça a été très ironique de ma part.
Est-ce qu'on va vers un troisième choix? Vous avez choisi un livre qui s'appelle « L'Arabe confus ».
Oui.
Qui est paru aux éditions Belfond. C'est un récit de Sofiane Simerabet. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi?
Alors, déjà parce que je connaissais pas Sofiane à la base. Je le suivais sur les réseaux sociaux parce qu'il avait toujours des. Il mettait beaucoup de stories et de publications sur le monde arabe. Il expliquait beaucoup de choses et il s'appelle The Confused Arab, l'arabe confus sur Instagram. Et je sais pas. J'ai été. Il y a un truc où ce mec m'a touché parce que il parlait de choses que j'avais connues enfant et il racontait l'histoire comme si c'était. Merde, comment il s'appelle? Il me faut la référence de le mec qui aime les châteaux.
Ah, Stéphane Bern.
Ouais. En fait, c'est comme si c'était le Stéphane Bern des rebeux, l'arabe confus. C'est de confused arabe, c'était... Et il est chic, et il habite au Moyen-Orient, et en même temps, il te raconte l'histoire de choses que t'as vues, c'est-à-dire des tagines en terre cuite. Bah, lui, il va aller te chercher l'étymologie de pourquoi la terre cuite. Et je trouvais ça très intéressant. Et je trouvais que c'était notre Stéphane Bern à nous, et en même temps, j'ai compris que c'était aussi un auteur de talent. Et quand il a sorti son premier livre, il me l'a envoyé, je l'ai lu direct et j'ai trouvé ça très malin. Il a une approche très sociologique, il y a un truc où il analyse un peu qui est l'arabe dans le monde. Et c'est hyper intéressant parce qu'on n'a jamais eu ça, nous. On n'a jamais eu le droit d'avoir une analyse sociologique de qui est l'arabe dans le monde.
Mais l'arabe, comme ça, avec un A majuscule,
oui,
ça vaut
pas. C'est ça que j'aime. Ouais, mais parce qu'il y a des choses, moi, en tant que franco-algérienne, forcément, je me sens rebeu de France. Mais pas que. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas, moi, au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, vous savez quoi? On n'est même pas des Arabes, nous. Nous, on est des Maghrébins. Et encore, on n'est même pas des Maghrébins, on est des Berbères. Et vous savez quoi? On n'est même pas des Berbères, on est des Atlantes. Voilà. Allez dire ça à Jordan Bardella, je pense qu'il va être deg, mais au final, on se gourre, même nous, les premiers concernés. Donc, je trouvais qu'il venait déblayer un peu tous les clichetons qu'on avait et c'était cool, en fait, enfin.
Parce que tout à l'heure, on parlait, mais la Bédia, des récits qui manquent, des histoires qui n'ont pas toujours été racontées, ou des histoires ou des questions qu'on n'a pas osé ou eu le temps de poser à certaines personnes de sa famille avant qu'ils partent. Mais par exemple, vous diriez qu'il vous manque des histoires, il vous manque du savoir sur qui vous êtes.
Mais bien sûr, je connais pas mon histoire. Enfin, on est les premiers à brandir le drapeau algérien, dire 1, 2, 3, mais je la connais pas réellement, l'histoire de la guerre d'Algérie, de l'Algérie. Ma mère, elle m'a raconté certaines choses, j'en ai lu d'autres, j'ai été à l'école. À l'école, bon, on m'a rien raconté de très intéressant sur ces guerres et sur d'autres, bon, de toute façon, sur plein d'autres chapitres. Mais je sais pas, j'avais besoin aussi d'aller me renseigner moi-même, d'aller creuser, parce que c'est bien beau de parler à des dîners et de faire genre l'érudit beurette. Mais en fait, d'ailleurs, beurette, faut pas le dire, mais en gros, si moi, je vais pas chercher, si je vais pas m'intéresser à vraiment l'origine des choses, ça sert à rien que j'aille être engagé ou je fasse la meuf... ou qui écrit, même ne serait-ce que pour moi, qui écrit une série avec des gens issus de cette immigration-là, quoi. C'est dommage si je ne m'intéresse pas et je ne vais pas me renseigner.
Et du coup, vous lisez des choses sur l'histoire de l'immigration, maghrébine en France. Vous commencez que maintenant.
Ouais, il n'y a pas si longtemps, parce qu'on grandit, en fait, et on a envie d'aller voir. C'est con, mais c'est un peu comme la codépendance. Tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Ça, c'est des trucs un peu ironiques, mais c'est vrai. Donc ouais, maintenant je lis, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir.
Ce serait quoi vos questions primordiales? Ce serait quoi les questions qui vous agitent aujourd'hui et qui vous feraient ouvrir des livres d'histoire, ouvrir des livres de sociologie?
Je veux savoir pourquoi il y a autant cet embrouille entre la France et l'Algérie. Je veux savoir pourquoi c'est un couple qui ne fonctionne plus. Voilà, moi mes parents ils ont divorcé, j'ai essayé de comprendre, et là j'ai envie de savoir à l'échelle nationale pourquoi l'Algérie et la France c'est Vincent Cassel dans Mon Roi, quoi, avec l'Algérie. C'est un pervers narcissique et je comprends pas, je veux savoir. Ils ont l'air d'être en tort sur des choses. Il y a juste à reconnaître et on avance, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a, c'est un couple qui est blessé. Donc j'aimerais savoir pourquoi.
Un couple ou des frères ou...
Ouais, en tout cas, il y a eu beaucoup d'amour. Et là, il y a pas mal de haine. Et parfois, il y a de l'amour, il y a de la haine et c'est cool, mais c'est pas réglé, quoi.
Vous disiez, oui, moi j'ai envie de lire, j'ai envie de savoir, je me pose des questions. Est-ce que vous avez l'impression que dans les personnes qui sont autour de vous, dans la génération qui aurait le même âge que vous, mais la Bédia, c'est quelque chose qui est commun, c'est quelque chose qui est partagé?
Il y en a, pas tous, mais j'ai des amis qui recherchent vachement. Alors, t'en as, c'est sous forme de podcast, t'en as, c'est de la lecture. T'en as, j'ai une amie qui est partie interroger son arrière-grand-père en Kabylie sur la guerre d'Algérie. J'en ai une autre qui fait des biographies de toutes les personnes âgées dans des EHPAD, et je trouve ça bouleversant parce que c'est génial, t'as au moins quelque chose qui reste. Ouais, des gens de ma génération, je crois que oui. Ça nous interloque, il y a quelque chose.
Est-ce que Mesquine à la pauvre, dans cette saison 2, il y a aussi quelque chose de la transmission de la mémoire? Cette Farah, elle a, pour l'instant, en tout cas, là où en est la série, elle a une grande difficulté à parler avec son père, elle le refuse, elle parle un peu avec ses deux amoureux, on peut dire ça sans trop spoiler quand même.
Bien sûr.
Voilà, mais disons que souvent, la conversation va buter sur quelque chose. Enfin, il y a quelque chose de la parole qui est difficile pour cette femme-là. Est-ce que vous diriez que c'est aussi ça que vous racontez?
Ouais, complètement. C'est aussi ça qui m'est arrivé, je pense. Par exemple, vous parliez de transmission, et dans Mesquina, on a trouvé la meilleure métaphore, c'est la cuisine. C'est-à-dire que pour moi, transmettre des recettes ou transmettre des valeurs, c'est la même chose. Donc c'est aussi ça qu'on a voulu montrer dans Mesquina, c'est-à-dire qu'il y a différentes générations, c'est une famille de femmes, t'as la grand-mère qui est la matriarche qui part, il te reste la mère, et après t'as les filles. Et c'est comment elles vont réussir à se transmettre entre elles ce que la grand-mère a laissé et ce qu'on avait laissé à la grand-mère aussi. Donc ouais, il y a un truc, en tout cas sur Mesquina, c'est vraiment lié à la bouffe et j'aime bien. Après, il y a pas mal de choses où ouais, je trouve que dans plein de familles, on n'arrive pas à dire les choses, quoi. Et ça, c'est propre à toutes les familles, quoi. C'est universel. Donc ouais, je pense qu'il y a un truc qu'il faut débloquer, il faut aller... Moi, je sais que je l'ai un peu fait avec ma mère en disant « Allez, viens, on se dit les choses. Ok, c'était un secret, ok, c'était tabou, mais viens, on se dit les choses parce qu'on va aller mieux. »
Ça marche ou pas?
Ça va.
D'ailleurs, vous m'avez pas dit ce que vous pensez de l'installation que j'ai fait dans le food truck, là.
Pas mal, pas mal.
Vous pensez que ça va lui plaire?
Peut-être. Avec Farah, on sait jamais.
Vous êtes toujours optimiste, ça fait plaisir.
Elle est douée, mais elle se donne pas les moyens. Elle va jamais au bout.
Oui, parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui croit en nous. Les gens qui ont pas confiance, il faut que quelqu'un voit leur richesse. Et Farah, il faudrait que je lui dise plus. Mais je vais pas la saouler.
Allez, au boulot.
Je fais quoi, moi, du coup?
Il y a un courant à rincer.
Ah, je rince un courant? Dans l'eau?
Ben oui, dans l'eau. Eh bien, tu passes toujours trop de temps à laver la coriandre. Moi, ça dort.
Je l'avais encore. Attendez, vous avez mis combien de paprika?
Arrête avec tes questions.
Et c'est pour avoir une trace de la recette parfaite.
La cuisine, c'est jamais parfait. Doucement sur le sel.
Ah oui, pardon.
Ma fille, elle met toujours trop de sel.
Ouais, je sais.
Je l'embête, mais en vrai, on s'en fiche des ingrédients. L'important, c'est de cuisiner en famille. La cuisine, c'est la famille. Ma mère, c'est elle qui m'a appris. Elle disait que je mettais trop de pois chiches. Les pois chiches, ça fait gonfler. Quand je cuisine, elle est là avec moi. C'est ça le plus important. La cuisine, la famille et le moment ensemble. C'est ça notre héritage. C'est ça la vraie richesse.
France Culture, le Book Club. Dans la bibliothèque de Mela Bédia.
Le sentiment nostalgique est très généralement lié au manque d'un lieu, d'un chez-soi originel, sacré où toutes les blessures seraient apaisées. J'aime particulièrement cette citation de Najib Mahfouz : « Chez soi n'est pas là où nous sommes nés. Chez soi, le home, et là où toutes les tentatives de fuite cessent. Cette phrase a toujours eu en moi un écho particulier. Je suis partie, j'ai quitté l'endroit où je suis née et où ma famille vit toujours. Pourquoi ? Pour tout le monde, ce n'est pas tant mon expatriation qui interpelle que sa durée et sa nature. Le plus souvent, les gens supposent, à juste titre, que je suis partie pour une meilleure situation professionnelle. Pour contourner ou, pour reprendre la citation de Najim Mahfouz, fuir le plafond de verre qui limite toute ambition professionnelle chez les jeunes issus de l'immigration. Ce phénomène reste contesté. Une fois en entreprise, les salariés bénéficieraient de chances égales, basées sur leurs diplômes, performances et capacité à s'intégrer dans l'organisation. Bien sûr, chaque expérience est individuelle et de nombreux jeunes racisés font de belles carrières, mais les études statistiques démontrent des inégalités profondes dans l'évolution des salariés en fonction de leurs origines.
L'arabe confus de Sofia Tsimberabed. Il y a deux choses dans cet extrait de texte que vous avez choisi, mais Melabedia, il y a l'idée de ce chez-soi, du home. Est-ce que la définition qu'il en donne, en reprenant la citation de Mahfouz, ça vous parle ?
Ouais, ça me parle. Ça me parle parce que pendant très longtemps, on nous a dit ça c'est chez moi, ça c'est chez toi. Sauf que quand t'es binational, bah, t'as le cul entre deux chaises. Donc en fait, pour être à l'aise, faut être, je sais pas, dans les hôtesses de l'air. Parce que tu sais pas. Tu vois, moi, on m'a souvent dit en France, t'es pas chez toi. En Algérie, t'es pas chez toi. Du coup, fallait que je sois vraiment, vraiment steward, quoi. Ou pilote de ligne, quoi. Mais c'était compliqué. Il y a ce truc de trouver sa place. Et je pense que la place, c'est celle où tu te sens le mieux. Point.
Et alors, comment vous avez trouvé ce chez soi ou comment vous continuez de l'inventer ?
Je continue de l'inventer. Je pense pas que je l'ai foncièrement trouvé, parce que je la cherche encore, on la cherchera toujours. Je trouve que c'est ça qui est beau, quelque part. C'est que tu peux te poser quelque part, te sentir bien, à l'aise chez toi, et aller ailleurs. Et en fait, c'est ça, moi, que je recherche, idéalement. C'est autant être chez moi en France, qu'en Algérie, qu'en Auvergne, et le Vercors, parce que j'adore le Vercors, enfin, et j'adore le Luberon. Enfin, c'est ça que j'aime. Et mon frère vit en Corse maintenant. Je me sens très, très à l'aise et chez moi en Corse. C'est ça qu'il faut réussir à trouver comme équilibre.
La suite du paragraphe évoque des parcours professionnels, de la discrimination, ce qu'on a appelé le plafond de verre, qui sont des choses qui sont très étudiées et qui sont encore terribles en France. Bien Est-ce sûr. Que c'est quelque chose que vous avez ressenti ?
Moi, pas trop, parce que j'étais la petite sœur de Ramzy, d'Eric et Ramzy, donc j'ai eu vraiment de la chance. Mais dans mon entourage, ouais. Dans mon entourage, je ressens encore cette histoire de plafond de verre, là, en 2024. Des gens qui ont des bacs plus 8 qui sont pas du tout... respecter juste parce qu'ils ont un nom à consonance ou qu'ils habitent à la Courneuve. Enfin, ouais, ça, je le vois dans mon entourage proche. Ça existe, c'est réel. C'est pas juste un reportage sur France 2, quoi. Ça existe.
Donc, et le lire, pour en revenir au texte, puisque vous disiez finalement, moi j'ai aussi besoin de lire des choses pour comprendre ce qu'on traverse, ça vous fait bouger, ça vous fait évoluer ?
Bah, déjà, je me sens moins seule. Je me dis, ah, il y a un autre auteur qui pense peut-être comme nous on pense. Donc ça fait plaisir. Mais en gros, ouais, de le lire, c'est comme si ça se cristallisait quelque part et je me dis, ok, ça existe, c'est comme une to-do list. Ok, il y a ça à faire. Maintenant, il faut qu'on avance et qu'on trouve les solutions. C'est ça que je me dis. Après, je vais pas me lancer en politique, mais en gros...
Mais c'est comme si une sensation de diffuse, ou pas diffuse d'ailleurs, de discrimination, de racisme, de difficulté d'évoluer dans l'existence, le fait que ce soit dans un livre, ouais. Ça légitimait ce sentiment-là.
Complètement. C'est comme si s'il y avait une loi qui venait de passer et que ça existait. Et que c'était pas que dans notre imaginaire ou notre ressenti.
Tout le monde. J'entends ta petite voix qui s'envole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de gitana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone, je ne trouve pas ma inata. J'appelle cette fille la miyama, rien on sait comment c'est à ma. Une heure du mat, m'attend dans le sortilège. Raptage des passeports inertes. La vie c'est sortilège, cerveau en ébullition, cœur qui bam. Moi, j'sais même plus l'air qu'il est. Quand j'consomme la liqueur, claqueur, l'hiver s'orchestre. À chaque fois que j'fume de l'orchidée jusqu'au corbillard, j'pense qu'à Orbi. Personne paie pour le flow to feel. I still have no fuck to give. Inata, parle pas chinois, j'peux la comprendre sans sous-titre. Personne paie pour le flow to feel. I still have no fuck to give. Inata, parle pas chinois, j'peux la comprendre sans sous-titre.
Le Book Club, dans la bibliothèque de Melabedia. J'entends ta petite voix qui s'enfle. Va vers le point rouge sur la main. Va vers le point rouge sur la main. Marie Richeux.
Tout à l'heure, vous avez évoqué la grande BD Maus d'Art Spiegelman. On va l'écouter dans une archive de 2020. Il est au micro d'Augustin Trattard dans l'émission de Drang.
Tout ce que je sais, je l'ai appris dans les comics. Dans mes recherches Google, c'est pareil. Si je cherche Covid, je passe par Covid en comics. Trump, Trump en comics. J'ai fait des études de BD. J'ai fait le seul lycée de New York où il y avait des cours de bande dessinée. Pour moi, c'était la satire et l'humour. Dessiner une BD, c'est pas la même chose que du dessin. J'ai vu des gens dessiner, ils rendent compte directement de ce qu'ils voient du mieux qu'ils peuvent, comme un sismographe sur une feuille de papier. Pour moi, dessiner, ça a été l'apprentissage d'un langage. Un langage de signes visuels, des signes combinés avec des mots, et dont le résultat est plus fort que des images ou des mots séparés. Parce que c'est comme ça, je crois, que nous décryptons le monde, comme un mélange des mots et des images.
C'est la voix d'Arch Spiegelman, parce que vous avez choisi, Mela Bedia, de mettre dans ce déballage de bibliothèque pour le book club la BD Mouse, oui. Qui est parue entre 1980 et 1991 aux États-Unis. Comment vous la découvrez?
Alors, je la découvre grâce à Ramzi, qui me donnait toutes les semaines des listes de lecture, de livres à lire, et je devais faire des fiches. Et il me la conseille, et là je me dis, tiens, c'est marrant, c'est une bande dessinée, mais ça a l'air de traiter d'un truc un peu lourd. Et je me rends compte que c'est la Seconde Guerre mondiale, enfin, c'est même plus particulièrement, c'est les camps de concentration. Et je me dis, waouh, quel est ce génie qui arrive avec une BD à parler de ce sujet aussi dur et à faire passer des choses. Et parfois, il y a de l'humour et parfois, il y a des choses très dures. Mais il y a un côté, c'est léger, mais tu vas rentrer dedans. Et c'est comme La vie est belle de Roberto Benigni pour moi. C'est la même chose, mais en BD. C'est-à-dire qu'on va te parler d'un sujet qui est bouleversant, qui est horrible. Moi, cette BD, elle m'a bouleversée en premier degré hein, quand j'étais jeune.
Et vous avez quel âge quand vous la découvrez?
Oh, je pense que je rentre en seconde, même un peu avant peut-être, fin de troisième. Et elle m'a bouleversée parce que, c'est marrant, mais je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête cette BD, je sais pas, elle m'a bouleversée, bah, déjà parce que l'histoire est folle, enfin, à un moment donné c'est horrible, enfin, et la manière dont il représente, il dessine, les souris, je me dis tout est génial là-dedans. Et pour la petite histoire, bac, je passe mon bac à 16 ans. Littéraire.
Pourquoi vous le passez à 16 ans?
Parce que je suis née en fin d'année et que j'avais sauté une classe. Et il y a l'oral d'anglais. Et vous saviez, à l'époque, on devait faire des commentaires à l'oral sur des petites bandes dessinées et tout ça. Et j'avais fait le parallèle avec Arch Spiegelman et j'ai eu 19,5, genre. Et je me suis dit, c'est une BD qui... Ouais, elle me porte bonheur, cette BD. Je l'adore. Je suis fan. Ça m'a... Enfant, j'ai été très bouleversée par ça parce que quand on est jeune, on commence à découvrir ce passage de l'histoire qui est horrible, qui est la Shoah. Et je me dis, tiens, d'avoir fait une BD pour... En fait, moi, c'est toujours ce truc-là de rendre accessible les trucs qui ne le sont pas. Et de l'avoir rendu accessible via le prisme d'une BD un peu plus légère, j'ai trouvé ça génial. Et je me disais, pourquoi on ne le donne pas à lire à l'école, ça? Je ne comprenais pas. Pourquoi c'est Ramzi qui me le donne, quoi?
Est-ce que vous aviez l'impression que, par exemple, on vous donnait à lire des textes, et notamment des textes en rapport avec la transmission de l'histoire, qui ne vous intéressaient pas assez, qui ne vous captivaient pas assez?
Ils m'ont moins captivé que ce que j'ai pu lire, moi, dans mes recherches personnelles, ouais. Complètement. Après, c'est cool aussi d'aller faire ses recherches personnelles, mais quand mon frère me faisait des listes de lecture, je préférais les listes de lecture de Ramzi que de ma prof. C'est vrai.
Mais vous étiez bien à l'école? C'était un endroit où vous étiez à l'aise?
Ah ouais, j'aimais trop l'école, moi. J'étais douée... J'avais des bonnes notes, quoi. Mais je foutais un peu le bazar, mais j'étais la rigolote. Et les profs m'adoraient. Et en même temps, j'étais au premier rang, mais parce que j'étais myope. Et après, je suis devenue une bonne première de la classe parce que la myopie...
Parce que vous étiez au premier rang.
Voilà. Donc l'un dans l'autre, ouais, j'aimais bien l'école. J'aimais bien y aller, je sais pas. J'aimais bien, j'avais mes potes. En même temps, je trouvais ça génial d'apprendre.
Art Spiegelman, dans l'archive qu'on a entendu, il parle du sens de l'humour, il parle de sa découverte du sens de l'humour, du fait que tout ce qu'il apprend, il le découvre dans des comics, dans des bandes dessinées. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu une école du sens de l'humour?
Bah, j'ai un grand frère très drôle, j'ai une grand-mère qui était très drôle, j'ai une maman qui est très drôle. Enfin, je veux dire, l'humour, c'était un truc de famille, quoi. Vraiment.
Ça passait par quoi, par exemple, l'humour de votre mère ou de votre grand-mère?
Parfois, on s'imitait entre nous parce qu'elles aimaient bien se charrier. Ça passait par mon grand-père qui était chauffeur de taxi et qui rentrait le soir et qui nous mettait Louis de Funès et qu'on riait tous en famille. Et c'est là où je me suis dit, en fait, moi, je veux faire ça. Je veux réussir à faire rire et un papy et une grand-mère et une sœur et un enfant de 8 ans. Et c'est la force de l'humour. C'est que l'humour, si c'est bien fait, c'est universel. Vraiment, il n'y a même pas besoin de parler la même langue. Enfin, on voit avec Charlie Chaplin, on voit vraiment... L'humour, c'est le truc qui, pour moi, pourrait réunir tous les peuples.
Mais parce que c'est fédérateur, c'est ça qui vous intéresse le plus, presque plus que rire.
Bah oui, j'adore quand dans le même salon, t'as tout le monde qui rigole à la même vanne et que les gens sont ensemble surtout. et qu'ils habitent et qu'ils vivent ensemble, quoi. Juste comme as, quoi. J'ai dit comme as.
Et donc, votre mère, votre grand-mère, votre frère, et est-ce qu'il y a des Louis de Funès, Chaplin, est-ce qu'il y a d'autres grandes figures qui ont été des écoles de l'humour pour vous?
Bah, c'était beaucoup le film du dimanche soir, hein, qui nous rassemblait. Et beaucoup Louis de Funès. Après, il y a eu Annie Dupéret, enfin, tous ces trucs-là de ma génération, moi, où on regardait ça en famille, et ça faisait plaisir, parce que c'était des moments de bonheur, et on était tous en train de rire à la même blague, et ça n'a pas de prix, je trouve.
On a un dernier texte que vous avez choisi, c'est Faïs Again, c'est son dernier livre, qui s'appelle Kif Kif Hier, qui est une retrouvaille avec son personnage principal 20 ans après la sortie de Kif Kif Demain en 2004, aux éditions Fayard. Pourquoi vous avez choisi ce texte-là?
Tout simplement parce que j'avais lu Kif Kif Demain. Je vais regarder pour ne pas me tromper.
Oui, oui.
J'avais lu Kif Kif Demain très jeune. C'est pareil, c'était un conseil de Anne de Pétrigny, qui était la femme de mon frère Ramzi à l'époque, et qui m'avait dit, lis cette meuf-là. Tu peux que te retrouver, tu vas rire, tu vas adorer. J'avais dévoré le livre, j'ai adoré son écriture. Je me suis dit, mais on a quelques ans d'écart, mais elle était un peu plus âgée, mais je me suis dit, enfin, c'est quelqu'un qui nous parle. C'est-à-dire, là, je ne parle même pas de la meuf qui écrit, je parle juste de quelqu'un qui a le même âge que toi et qui écrit. Et en ça, je me suis retrouvée, et puis elle racontait des choses que je vivais, quoi, tout simplement.
Elle racontait quoi, par exemple, dans Kif Kif Demain, qui vous parlait?
Tout rapport à la famille, à l'école, mais beaucoup la famille. Et puis, il y avait ce truc de, quand t'es jeune, tu te sens un peu seule au monde, incomprise. Elle avait ce truc-là, son personnage avait ce truc-là dans le roman. Donc forcément, il y avait un truc de, quand t'es ado, tu te dis, ah ouais, mais en fait, je suis pas toute seule. C'est con, mais j'étais moins seule en lisant Kif Kif Demain.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça, qu'on peut vivre avec les livres, qu'on peut se sentir moins seule?
Pardon. Bien sûr, mais moi, je trouve que c'est fou. Dès que tu te plonges dans un livre, tu plonges dans un environnement et un autre monde qui fait que tu te coupes des autres, et c'est génial. C'est génial, tu te sens moins seule. Tu te sens peut-être même bizarrement écoutée, alors que c'est toi qui lis. Et c'est ça que j'aime.
On lit un extrait? Enfin, vous lisez un extrait?
Ma voisine Rita écoute le prêche du dimanche matin. Elle suit la messe retransmise à la télévision publique avec le volume à fond. Si bien que je me demande si ça s'inscrit dans le cadre d'une tentative de conversion forcée. Parce qu'évidemment, les murs sont fins, j'entends tout. Et j'apprends des choses sur la vie alors que je n'ai rien demandé. Le prêtre cumule les fausses notes en chantant les louanges de Dieu, mais personne ne lui en veut pour ça. Pas nécessaire de faire les harmonies de Maria Carré pour officier apparemment. Sans vouloir créer de compétition inutile, si on joue à The Voice Religion, à coup sûr, c'est l'imam qui gagne. Et je le répète, loin de moi l'idée de lancer la saison 2 des croisades, mais vocalement, on est largement au-dessus. Bon, ok, le prêtre de France 2 n'est pas si nul. Et puis, la moindre des choses, c'est d'être indulgente avec quelqu'un qui prône l'amour et le pardon.
Pardon. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet extrait?
Bah, je l'ai vécu ce moment du dimanche matin. Moi, je suis une très grande fan de Jour du Seigneur. Déjà parce que j'adore...
Répétez cette phrase quand même.
Je suis une très grande fan du Jour du Seigneur sur France 2, le dimanche matin. Parce que je trouve que si on regardait plus cette émission, on pourrait mieux coexister. Et pour moi, c'est ça le vivre ensemble. Et depuis que je suis petite, je vous jure que c'est vrai, je comprends que les trois religions se suivent et que c'est l'iPhone 4, 5 et 6. Bon, après, l'islam est le 6. Mais on peut avoir le 4 et ça marche très bien. C'est ce que je dis en tout cas. Il y a vraiment un truc de l'ordre de... Pourquoi c'est la guerre dehors alors que vraiment le dimanche matin, ils sont tous potes. Le prêtre, l'imam, le rabbin. Et ça me parlait forcément, ça, parce que je sais qu'on a eu la même enfance avec Faïsa, je le sais, la preuve. Et ça me faisait marrer parce que elle fait des vannes sur la religion, mais elle respecte. Et ça, j'aime bien.
Mais d'ailleurs, c'est aussi le cas dans Miskina la Pauvre, la série que vous co-réalisez, que vous co-signez. Il y a une partie de la place de la religion qui est une partie assez moquée. C'est le mari de la sœur du personnage principal qui est converti.
Victor Belmondo, ouais.
Qu'un espèce d'influenceur à 4 sous qui passe son temps à enregistrer sa femme à son insu et qui a un rapport à la religion qui semble assez cosmétique. En tout cas, c'est comme ça que vous le filmez.
Ouais, alors après, le seul truc avec ce personnage-là de Maxime dans la série, c'est qu'il est vraiment sincère. Mais comme beaucoup de convertis que j'ai rencontrés, ils sont sincèrement, foncièrement, profondément sincères. Et ça aurait été l'islam ou le judo, ils seraient allés partout à fond. C'est comme ça que je les vois. Et j'en ai connu beaucoup. Et le personnage de Victor, c'est ça, de Victor Belmondo, c'est un mec qui était un peu perdu et qui a décidé de se trouver via cette religion. Mais ça aurait pu être complètement autre chose. Mais il s'avère que cette religion lui fait du bien et il est archi sincère. Alors ouais, c'est un peu cosmétique parce qu'il est influenceur et qu'on est en 2024, mais il y croit vraiment. Et ça, ça me touche.
Qu'est-ce qui vous touche là-dedans ?
Les gens qui sont passionnés me touchent. Quelqu'un qui est passionné de mécanique, de tuning ou de religion, ou de, je vous jure, ça me touche. Quand je vois quelqu'un qui est à fond dans quelque chose, ça me bouleverse.
Vous, vous êtes passionné de quoi ?
De propolis.
Non, mais à part votre futur doctorat en médecine, mais la médiane.
Non, en vrai, moi, je suis...
Qu'est-ce qui vous passionne ?
Franchement, trop de trucs. Je suis passionné de faire rire. Je pourrais faire ça jusqu'à la fin de mes jours, même si ça ne marchait plus et que c'était plus mon métier sur la petite fiche de salaire, là. Il n'y a plus écrit humoriste, c'est pas grave. Je veux continuer de faire rire les gens parce que les rires des gens me font tellement de bien. Donc, c'est peut-être un peu égoïste. Et en même temps, il y a un échange avec les gens que j'adore. J'adore faire rire les gens. Je peux pas vous dire, c'est bizarre de dire ça, on dirait une Miss France nulle, mais j'adore faire rire les gens. C'est ça que je voudrais faire, c'est ma passion. C'est d'entendre des rires gras ou silencieux, ou juste les épaules qui, comme ça, qui tremblent, mais...
Et pour des gens qui l'ont jamais vécu, qui sont jamais montés sur scène, qui ont jamais fait les grosses têtes ou qui ont jamais fait des séries, qui ont jamais fait rire comme ça, ce serait quoi ?
Procurer une émotion en vrai, parce que là j'ai parlé du rire, parce que moi le rire me touche particulièrement, mais procurer une émotion en écrivant un livre, un poème, en lisant, je sais pas, une citation, une chanson, enfin, procurer une émotion, je trouve ça trop beau. Je suis vraiment en direct, je suis en train de parler, je suis une Miss France.
Mais vous allez être élue peut-être. Peut-être vous allez être élue.
Votez pour moi, au book club au moins.
On va voter pour vous, je pense. On va voter pour vous. Il y a quelque chose dans le fait de faire rire dont vous dites que vous êtes capable de le faire jusqu'à la fin de vos jours, mais quelle qu'en soit la forme, c'est-à-dire que ce soit sur scène, au théâtre.
Peu importe, même si c'est plus du tout payé, je le ferai. Parce que j'aime trop ça et ça me fait du bien, moi. Et c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça que j'ai un échange avec les gens. J'adore parler avec les gens dans la rue, par exemple.
Vous faites beaucoup ?
Ouais, bah après, ils me parlent beaucoup. Et ça, c'est
cool.
Ils
vous reconnaissent, ils viennent vous voir, ils vous
parlent. Ouais, ça y est, c'est fait, ça. Mais ça me fait plaisir. Mais même avant, je crois que j'ai un truc... quand on est un peu gros, on a un capital sympathie. Donc je pense que c'est grâce à mon surpoids et mon ergonomie rare que les gens viennent me parler dans la rue.
Ergonomie rare.
Et ça, c'est cool.
Vous avez réalisé 2 saisons de Mesquine à la pauvre. Vous avez joué dans des films sous la direction de réalisatrices et réalisateurs. Vous êtes monté sur scène, vous faites de la radio. Est-ce que vous avez comme ça des horizons ?
Franchement, j'ai envie de faire un album. Non, je déconne.
Moi, je vous suis. Vous avez
vu. Vous êtes la première et dernière à pas vous être moqué de moi.
Premier degré total.
J'ai envie de faire ma Sandrine Kiberlin.
Bah vraiment, non, j'étais en premier. C'est tellement dommage. Vous regardez, vous m'avez mis face à mon premier degré.
Non, attends, je viens, je vous check. J'espère qu'on entend le bruit du check. Mais non, je sais pas trop. J'aimerais bien réaliser sans être à l'écran. Ça, c'est ma prochaine étape. Mais je veux pas brûler les étapes. Je veux vraiment apprendre, co-réaliser. Je veux pas m'inventer une vie.
Qu'est-ce que vous voulez raconter comme histoire ?
Moi, j'adore partir de moi parce qu'au moins, c'est sincère. Et après, j'ai trop de choses à raconter encore, je crois. Et
j'ai Par exemple, faites-moi rêver.
Ah, la prochaine comédie que je suis en train d'écrire, c'est idéalement mon rêve. Je sais pas si ce serait avec lui, mais c'est une comédie d'angoissé. C'est la première comédie romantique d'angoissé. Et ce serait Louis Garrel et moi. Et on reprendrait tous les codes de la rom-com et tous les codes de l'hypochondrie et de l'angoisse. Donc ça, c'est en cours d'écriture.
Est-ce que c'est un bon mélange l'hypochondrie et l'amour ou la drague ?
Ouais, je pense que c'est archi lié. On a tous les mains moites. Et les mains moites, c'est un phénomène. Si tu regardes bien, c'est juste de l'angoisse et de l'anxiété, quoi. Je pense que l'amour et l'angoisse, c'est très, très, très fortement lié.
Est-ce qu'il y a des livres que vous rêveriez de lire un jour, des livres comme ça qui sont dans votre horizon, que vous n'avez pas encore lu, mais vous savez que vous avez peut-être rendez-vous avec eux ?
Il y en a un que j'ai très envie de lire, mais il faut que je prenne le courage. Et c'est nul, enfin c'est pas nul, c'est un classique, mais c'est Les Mille et Nuits. Je sais qu'il est long, on me raconte à chaque fois des petites bribes, des trucs, et je parle beaucoup avec un scénariste avec qui on écrit, et il a souvent ça qui me... Il me cite beaucoup Les Mille et Nuits. J'aimerais le lire, mais je sais pas quand.
Les Mille et Nuits, c'est quand même une femme qui raconte des histoires pour ne pas mourir.
Ouais, mais je trouve ça fou que ça nous ait pas plus frappé cette histoire, qu'on n'en ait pas fait un film là.
Elle survit parce qu'elle raconte une histoire.
C'est génial. En vrai, aujourd'hui, ce serait une meuf qui fait des podcasts pour pas se faire assassiner. On peut faire ça pour une plateforme.
Merci beaucoup, Mela Bedia, d'avoir déballé
Merci
pour nous
à
votre
vous.
Bibliothèque.
C'est trop apaisant chez vous. J'ai envie de revenir.
If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing.
Peut-être vous allez pécho des intellectuels.
Franchement, s'il y a des intellos... Moi aussi, j'étais une ex-intello. Là, maintenant, je suis sur TikTok, je suis devenue une bouffonne, mais franchement, il y a moyen que j'arrête TikTok et je me reprenne...
Pourquoi vous avez arrêté d'être une intello?
Parce que pendant très longtemps, on me montrait un peu du doigt en étant l'intello.
Ah oui, c'était pas bien vu.
Ouais, alors ça a dû me traumatiser un peu. Et là, en grandissant, je me dis, putain, c'était bien d'être une intello. Je trouve que vous êtes hyper stylé. Je pense que vous êtes hype.
Vous êtes très à droite.
Non
vous êtes très sincère.
Non, et vous allez faire un album. Et je vais faire un album de Bossa Nova.
Vous voulez continuer à dire des choses belles sur France Culture?
Je vous adore France Culture.
Je vous ai tellement coupé dans votre élan, je suis désolée.
Non, j'étais en train de vous faire... Mais j'ai envie de faire toutes les le reste de la promo qui est avec vous. Est-ce que vous voulez pas venir avec moi?
J'ai une émission tous les jours en direct de 15h à 16h.
Je peux pas venir et je regarde stage d'observation 3e. Je regarde juste, je fais pas de bruit. Je tousse même plus.
Je crois pas que vous allez pas tousser. Au son aujourd'hui, c'était Grégory Wallon. À la réalisation, c'était Riyad Kera. Vous pouvez réécouter la bibliothèque de Mélabédia sur franceculture.fr et tous nos portraits de bibliothèque. Un très grand merci à toute l'équipe de l'émission. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France.